Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que je vous sers ?
Je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ?
Vous reprendrez bien un peu de SF ?
Ouais, oui, tiens. Vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Pour débuter cette quatrième saison, je vais aborder un sujet léger, marrant, voire rigolo. La guerre. Aujourd'hui, je vais vous parler de SF militaire. On va pas se mentir, la SF est violente. Pas totalement, mais bien souvent. Et ce, sous plusieurs formes. Sociétale, environnementale, financière. La violence dont je veux parler, c'est une violence institutionnelle, régie théoriquement par des règles bien précises, mais qui, vous vous en rendrez bien compte, sont souvent bafouées. Les militaires sont très présents en SF, sans forcément être au premier rang. Parfois, la présence est tellement évidente qu'on l'oublie. Star Wars, par exemple. L'armée est présente dans tous les épisodes. Qu'elle soit privée, au service d'un conglomérat, d'une nation ou même d'un empire. Sans compter la rébellion qui n'est pas à proprement parler une armée. Si on évoque des militaires dans un récit, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Ils sont là pour nous défendre d'un péril ou alors pour nous en mettre plein la tronche. Choisis ton camp, camarade. Quand il s'agit de nous défendre, les résultats sont mitigés. Dans World Invasion Battle Los Angeles, des Marines se retrouvent à se défendre contre des aliens qui envahissent leur voisinage. Ils se battent quasiment dans leur jardin. Le combat se fait au corps à corps, les soldats sont en prise directe avec leur ennemi. Les images font penser à une vraie guerre, comme celle que l'on peut voir quasiment tous les jours à l'époque où sort le film en 2011. Une guerre urbaine où chaque carrefour est sujet à un guet-apens. Mais une guerre où les envahisseurs, ce sont les Américains. Le parallèle est saisissant avec la deuxième guerre d'Irak, qui a eu lieu entre 2003 et 2011. Je ne sais pas si c'était l'intention du réalisateur, Jonathan Liebesman, qui se serait inspiré d'un événement survenu durant la Seconde Guerre mondiale. À la fin, il gagne. Mais est-ce vraiment une surprise ? Toujours dans le genre, on se prend une invasion et on essaye de la repousser, Edge of Tomorrow. Là, on suit les déboires d'un officier, porte-parole de l'armée de la coalition, qui va, bien malgré lui, être plongé dans un débarquement sur les plages françaises pour combattre un ennemi qui est apparu en Allemagne et qui a envahi l'Europe. Tiens, ça dit quelque chose. À vous, si je suppose, le clin d'œil est un peu appuyé. Le film est sorti en 2014, année du 70e anniversaire du débarquement en Normandie. Là, en plus d'extraterrestres, on a droit à une histoire de boucle temporelle. L'officier en question est un couard. On lui a ordonné de participer à la première vague du débarquement pour être au plus près de l'action et de la faire vivre aux téléspectateurs. Il tente de se débiner, mais il est rattrapé et incorporé de force dans un groupe d'assaut. Je ne le juge pas. Moi-même, je ne sais pas comment je réagirais en de pareilles circonstances et je vous mets au défi d'être absolument sûr de votre réaction dans ce cas. Le malheureux se retrouve donc en première ligne et évidemment, ça ne se passe pas bien. 12 euphémismes pour dire qu'il va mourir explosé par une mine antipersonnelle. Mais il ne va pas mourir seul. Faible compensation, il va trépasser en compagnie d'un extraterrestre. Mouais. Sauf que cet extraterrestre a des capacités particulières. Celle de pouvoir revivre sa dernière journée et ainsi de pouvoir agir différemment et contrecarrer les tactiques adverses. Ce n'est pas pour rien que ce film a été comparé à Un jour sans fin. Quand c'est une méthode de travail, c'est pratique, on revoit ses copies pour s'améliorer. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez. Ajoutez quelques fois et souvent effacez. Citation de Boileau. Mais quand on subit cet avantage, entre guillemets, c'est pas la même. On apprend que le pauvre homme subira cette épreuve un nombre incalculable de fois. Dans les deux films que je viens d'évoquer, on se rend compte que le cadre militaire est à l'image qu'en a le public. Un bulldozer qui avance sans se poser de questions, sans état d'âme. Le tout sans forcément de succès, qui plus est, et qu'il faut que quelqu'un sorte du cadre pour débloquer la situation. L'électron libre, qui volontairement ou pas, va devenir l'élément perturbateur. Qu'il agisse en solitaire à la façon d'un cow-boy, ou juste qu'il soit là au mauvais endroit et au mauvais moment. Dans ces cas-là, l'armée n'est pas le plus à son avantage. Et même de manière générale, ce n'est pas un portrait flatteur qui en est fait. La fin justifie les moyens, me direz-vous. Certes, tous les coups sont permis, et nulle part en SF il n'est fait allusion à la Convention de Genève concernant les droits et devoirs des armées. Quand il s'agit de défendre son pays, sa planète, son espèce, on a tendance à moins faire la fine bouche. L'instinct de survie prend le pas sur la réflexion, et on n'épargne aucun coup à l'ennemi. Et dans certains cas, on envoie même des enfants à la guerre. Dans la stratégie Ender par Orson Scott Card, nous faisons la connaissance d'Andrew Ender Wiggin. Son surnom Ender a plusieurs sens. Tout d'abord, il est le dernier d'une fratrie, le troisième dans une société où seulement deux enfants sont autorisés par famille. Il est le dernier, celui qui ferme le banc. Ses aînés, un frère et une sœur, ont échoué dans la mission qui leur était attribuée. Il est donc conçu pour pallier à leur défaillance. Ça fait beaucoup de poids à porter pour ce petit être déjà promu à une grande destinée avant même sa naissance. Ender veut dire aussi en anglais « celui qui finit ». Et c'est prémonitoire. Le monde dans lequel Ender arrive est un monde qui a survécu à une invasion extraterrestre. L'audace et le sacrifice d'un seul homme a permis la victoire sur le fil des humains. Au moment où commence l'histoire, la guerre n'est pas finie, et les humains redoutent une nouvelle confrontation. Ils vont donc aller chercher les Doriforce sur la planète d'origine pour les neutraliser à la base. Ender suit donc un parcours scolaire et militaire pour devenir un stratège et ainsi mener la flotte terrienne à la victoire. Pour cela, il va passer plusieurs niveaux de qualification et on va le voir progresser à une vitesse impressionnante. Le dernier palier de sa formation est la simulation de commandement d'une flotte spatiale expéditionnaire vers la planète des Doriforce. Oui, on les appelle les Doriforce, c'est toujours sympa de dénigrer l'ennemi. Je vais m'arrêter là dans l'histoire pour ne pas tout déflorer. On voit ainsi un nouvel élément de la SF militaire apparaître, le mensonge, la manipulation. Et quand on y réfléchit, la désinformation a toujours fait partie de la stratégie militaire. Les militaires ont toujours voulu en connaître le plus possible de l'adversaire et que ce dernier en sache le moins sur vous. Le cheval de Troie, exemple typique de la manipulation. Je vous disais un peu plus tôt que les militaires n'étaient pas vraiment mis à l'honneur dans les divers récits que je vous ai présentés. Il y a un livre où c'est tout le contraire. Étoile, garde à vous de Robert Heinlein. L'auteur peut être présenté comme un réactionnaire ou un patriote, ça dépend du point de vue. En 1958, alors qu'un comité préconise l'arrêt des essais nucléaires américains, il fonde un groupe de pression pour le maintien de ces essais. Ses collègues écrivains de SF vont à un petit quai. Il est vrai que la majorité des écrivains de SF sont au mieux apolitiques ou alors carrément de gauche, voire libertaires, à l'image de Philip K. Dick. La SF en général est plutôt progressiste et prône l'ouverture vers l'autre et la découverte d'autres univers. Heinlein dénote un peu dans ce paysage et il va en réaction se lancer dans l'écriture de Starship Trooper en version originale, Étoile garde à vous en français. Titre inspiré d'une chanson de Guy Béard. Sérieusement. L'histoire, on suit Johnny Rico qui décide de s'engager dans l'armée pour participer à ce qui sera nommé plus tard la guerre des punaises. C'est que Johnny est indécis au sortir de ses études et il va tout simplement suivre ses amis dans cette voie. Et un peu aussi par bravade envers ses parents qui sont antimilitaristes. Il faut dire que la société dans laquelle vit Rico est particulière. À la fin du XXe siècle, une guerre mondiale éclate, mais un terme y est mis rapidement. Toutefois, cela va entraîner des troubles dans le monde occidental, mettant à bas les différents systèmes démocratiques. L'ordre reviendra par l'action des vétérans. Ils vont constituer d'abord des comités de surveillance, et ce modèle constitué dans l'urgence deviendra alors la norme. Cette initiative reviendrait pour contrer une tendance des plus jeunes à vouloir profiter de leurs droits sans aucune contrepartie. Je cite. C'est ainsi que s'établira une fédération terrienne à deux vitesses. Il y a les civils qui n'ont pas le droit de voter et ceux qui auront effectué leur service fédéral et qui deviendront des citoyens. Dans cette société, le droit de vote n'est pas un droit absolu qui s'acquiert à la naissance. Il faut le mériter. Le fait d'être un simple civil n'empêche en rien d'avoir une vie normale. Ils sont simplement considérés comme des membres secondaires de la société. Ils sont nécessaires à la société, mais ne peuvent espérer l'influencer. On a le choix. Rester dans son coin à attendre que cela se passe, ou faire partie de l'élite qui décidera en faisant preuve de bon sens civique de l'avenir de la fédération. Le vote n'est plus un acquis, mais un droit du sang versé, celui du citoyen ou de l'arachnide. L'arachnide, ennemi mortel de la fédération terrienne qui va détruire plusieurs villes terriennes et que les humains vont tenter de détruire tout au long du livre. Arachnides qui vivent comme les fourmis, qui forment une entité commune qui pourrait être assimilée à du communisme. La ficelle est un peu grosse, mais bon. Une adaptation de ce livre verra le jour à l'écran. Réalisé par Paul Verhoeven, le film Starship Troopers divisera public et critique. Autant pour Heinlein, on connaissait le sens du vent, entre guillemets, ses accointances militaires et anticommunistes ne faisaient pas débat. Autant pour le film de Verhoeven, ça semblait moins clair. D'aucuns ont descendu le film en lui prêtant des intentions pro-militaires et expansionnistes, mais d'après le réalisateur, c'était plutôt une satire d'une société martiale. Son souhait était de dénoncer le militarisme rampant dans les sociétés occidentales. Pour la forme, il avait choisi des acteurs propres sur eux et qui avaient surtout œuvré dans des sitcoms ou des soap-opéras. Il voulait utiliser leur plastique hollywoodienne et leurs précédentes apparitions à contre-emploi pour justement forcer le trait. Histoire de se moquer de cette société limite eugénique pour porter son message. Visiblement, c'était trop subtil. Le film est librement inspiré du livre, on suit à peu près le même parcours, mais les accents sont mis sur des épisodes différents. Dans le livre, la formation civique et ensuite militaire de Johnny Rico est très précisément décrite. Les deux tiers du livre y sont consacrés. C'est surtout pour donner à l'auteur de la place pour présenter et détailler sa vision d'une société aux mains d'une jeune militaire qui a résolu de nombreux problèmes causés par une classe de jeunes gens fragiles. Ce bouquin est à milieu de l'esprit woke. Dans le livre, l'effondrement de la civilisation occidentale est causé par une génération plus prompte à protéger ses acquis qu'une certaine idée du patriotisme. Dans le film, hormis la séquence traditionnelle de la présentation des protagonistes au début, on ne s'attarde pas trop sur leur parcours préopérationnel. Verhoeven a plutôt axé son œuvre sur les opérations militaires, victorieuses ou pas, et y a ajouté un soupçon de romance. Dans le film qui raconte les classes de jeunes incorporés, on ne pourra pas mieux faire que Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. L'attention a été surtout portée sur les affrontements qui sont spectaculaires et bien gore, comme à l'habitude pour le réalisateur batave. Un autre aspect est également mis en avant dans le film, la propagande. Elle est présente dès les premières images, sous forme d'un journal qui donne les dernières nouvelles du front, un peu comme pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, dans le cadre d'une séance de cinéma avant le film, on diffusait un résumé de l'actualité, surtout militaire. À l'époque, la télé n'existant pas, c'était le moyen de « voir la guerre », entre guillemets. Le petit plus de ces journaux dans le film, c'est le lien qui donne accès à du contenu supplémentaire. Petite révolution à l'époque où Internet commençait à être connu par le grand public. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, ce genre de procédé n'est pas si vieux pour les médias français en tout cas. Toujours est-il que la propagande est ultra présente dans ce monde en guerre. Et elle ne donne pas forcément de bonnes nouvelles. Certains échecs sont publics, les victimes ne sont pas occultées. Ce qui de prime abord peut paraître surprenant. Mais le public ne serait pas dupe. On ne pourrait pas le gaver constamment de bonnes nouvelles. Il faut lui montrer que la guerre provoque des dégâts humains et matériels. Mais il faut lui montrer juste ce qu'il faut. La bonne dose pour susciter l'attention permanente du public et lui faire comprendre qu'il faut rester vigilant. Un délicat mélange entre crainte de l'ennemi et nécessité de supporter l'effort de guerre. Il faut que le peuple aime son armée, et en cela la propagande leur mâche un peu le boulot. Les soldats sont toujours présentés à leur avantage, propres sur eux, efficaces, souriants. On ne sait jamais si on peut aussi susciter des vocations. Dans l'œuvre suivante, vous verrez là aussi que la propagande est bien présente, et pas qu'un peu. Mais avant ça, je vais vous parler de Joe Haldeman. Joe est né à Oklahoma City en 1943. Cette indication peut paraître totalement banale, mais elle nous dit deux choses. C'est un Américain, et il est pile dans la tranche d'âge des hommes qui sont appelés à servir sous les drapeaux, surtout quand ces derniers sont plantés au Vietnam. C'est ainsi que le 14 septembre 1968, il va manquer de peu de passer l'arme à gauche. Grièvement blessé par une mine, il va passer 5 mois dans un hôpital. Il va être victime également d'un autre traumatisme. Celui-ci moins physique que mental, et pourtant redoutable. Le syndrome de stress post-traumatique. Il dira être encore victime d'angoisse 20 ans plus tard. La reconnaissance de ce syndrome est très récente. Et on ose imaginer les générations de soldats qui ont dû vivre avec ce mal invisible. Toujours est-il que Joe, pour se défouler, écrit un premier roman, Au service de la guerre. Mais c'est l'ouvrage suivant qui va nous intéresser ici, La guerre éternelle. Comme pour son premier livre, il va beaucoup s'inspirer de son expérience au Vietnam. Il va même en tirer l'incipit du roman. L'incipit, c'est les premiers mots du livre. Ça fait un moment que je voulais le placer, celui-là. Bref. Ce soir, nous allons vous montrer 8 manières silencieuses de tuer un homme. Paradoxal, quand on sait que ceux à qui on va apprendre ça vont se battre contre des torrents dont on ne connaît rien de la morphologie. Petit retour en arrière. Nous sommes en 1998 et on découvre le sceau collapsar. Un collapsar est une étoile en fin de vie qui implose, mais avant qu'elle ne devienne un trou noir. Dans notre monde, c'est un état théorique. Dans celui de Haldeman, c'est concret, et ça sert pour les voyages spatiaux. Ce phénomène permet de voyager à presque la vitesse de la lumière, et ça va avoir son importance. Toujours est-il que des expéditions sont envoyées un peu partout. Mais en 2007, une sonde revient sur Terre. Cette sonde agissait comme un témoin, une boîte noire pour vaisseau spatial. Comme quoi quelque chose ne s'est pas forcément bien passé. Et là, il s'est passé un truc, pas top, mais qui va amener une énorme révélation. Le vaisseau que suivait la sonde a été détruit par des extraterrestres. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et pas de bol, ils n'ont pas l'air pacifiques. Mais pourquoi les nommer Torrent ? L'attaque s'est déroulée à côté de l'étoile d'Aldébaran dans la constellation du Taureau. Comme Aldébarien, c'est pas simple à prononcer, on a choisi Torrent. On fonde alors l'AENU, l'armée d'exploration des Nations Unies. Armée d'exploration. Tout un programme. Pour les soldats qui vont constituer cette armée, la sélection est un peu différente de ce qu'on peut voir classiquement. Au lieu de ramasser des wagons de conscrits plus ou moins volontaires, on recrute, entre guillemets, l'élite. Des personnes très intelligentes et avec une très bonne condition physique. Ils ne sont pas nombreux au départ. Une centaine. On vise la qualité plutôt que la quantité. Après une formation de base sur Terre, voilà nos soldats d'élite en route pour Charon, planète froide et brutale. Mais on a beau voyager à une vitesse proche de celle de la lumière, les trajets ne se font pas en un claquement de doigts. Et là, il faut que je vous parle du voyage à la vitesse de la lumière. Bien que purement théorique pour le moment, il fait l'objet de suppositions bien perchées. Pour faire simple, si on voyage dans un vaisseau en partance de la Terre et qu'on accélère jusqu'à la vitesse de la lumière, le temps dans le vaisseau va passer moins vite que sur Terre. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous allez vivre au ralenti dans le vaisseau. Vous vivrez comme sur Terre, mais de leur point de vue, vous bougerez moins vite. C'est une question de perception par rapport à son référentiel temporel. Bon, j'ai dû perdre du monde là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le lieu et je ne suis pas assez calé dans le domaine. Sachez juste que plus vous allez vite, plus le temps des autres va passer rapidement. Donc, premier voyage pour nos soldats, et plus particulièrement pour le soldat Mandela, le personnage principal de l'histoire. C'est lui qu'on va suivre tout au long de cette guerre. Le voilà parachuté pour sa première mission sur Aleph, à la recherche des torrents. Problème, personne ne sait à quoi il ressemble. Et c'est un malheureux herbivore qui va en faire les frais. La suite va être encore plus dramatique. Les terriens sont en approche d'une base Tora. Ainsi donc va avoir lieu la première rencontre entre les deux espèces.
Ami, pourquoi Wallace a-t-il saigné à mort ? Ami, pourquoi Bruce a-t-il expiré à tort ? Reste dans ton lit gluant de sang ou marche vers la victoire ?
Surprise du chef. Durant leur formation, on leur a implanté un conditionnement hypnotique sous la forme d'un poème à la gloire des héros écossais qui ont lutté contre l'envahisseur anglais. Les soldats sont subitement transformés en de bêtes sauvages qui ne pensent qu'à tuer, exterminer leur ennemi. Les torrents, eux, ne comprennent rien à ce qui se passe et se font décimer. Le terme de boucherie s'applique bien à cette scène. Ainsi donc a eu lieu la première rencontre entre les deux espèces. Les affrontements vont alors aller crescendo, avec des armes toujours plus efficaces et dévastatrices. Car chaque voyage dilate le temps hors de la temporalité de Mandela et de ses camarades. L'histoire est basée sur eux, et donc le temps extérieur, entre guillemets, ne va pas à la même vitesse. Ce qui veut dire que les torrents qu'ils vont affronter lors de la prochaine bataille auront potentiellement des années d'avance technique sur eux. Et que dire des permissions ? Après 2 ans de service, Mandela retourne sur Terre, qui, elle, est 25 ans plus tard. Il va donc subir un énorme décalage. Par exemple, son jeune frère ressemble maintenant à son père. La société qu'il retrouve a changé. Déjà, elle subit une économie de guerre, et en 25 ans, l'évolution légitime qu'on voit progresser à vitesse « normale », entre guillemets, Mandela se la prend en pleine tronche. Et ça ne va pas aller en s'améliorant. Ce décalage, l'auteur l'a subi lors de ses permissions pendant la guerre du Vietnam. Les Américains n'avaient que les infos télévisées pour appréhender la guerre de l'autre côté du Pacifique. Ils vivaient dans une société certes au fait de ce qui se passait, mais dans un certain confort qui les anesthésiait un peu. Et ça ne pouvait que servir le gouvernement de l'époque. Un combat supposé juste qui se déroulait au-delà de l'horizon. Seules les manifestations des contestataires, le retour des blessés et des cercueils devait troubler quelque peu le climat. Un jour on combat les aliens, et le lendemain on se retrouve dans son pays qui ne l'est plus vraiment. Je vous laisse découvrir par vous-même la suite du roman. A noter qu'une bande dessinée en 3 tomes en a été tirée et je vous la conseille chaudement. Que ce soit sur Terre ou à des années-lumière, les soldats en SF sont confrontés à des adversaires pour le moins exotiques, terribles et déterminés. Mais les problématiques sont les mêmes, quels que soient les degrés de sophistication des armes employées. Tuer ou être tué, défendre son pays, sa planète, quitte à y laisser une partie de soi, physique comme mentale. Les décisionnaires feront toujours des soldats de la chair à canon. Simples conscrits ou éléments d'élite, ils vont devoir aller au contact. Et en SF, la chose militaire est aussi peu subtile que celle que nous connaissons. De la force brute pour faire plier l'ennemi. Pas de place à la philosophie, elle taille dans le vif. Mais c'est malheureusement ce qu'on demande à une armée d'accomplir. Elle obéit à un pouvoir politique. Peut-être est-ce là son point faible. Avant de terminer cet épisode, un énorme merci à Élise et Virginie pour les compléments d'infos. Je vous donne rendez-vous dans 1 mois pour le prochain numéro de « Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ».
Vers Cassiopée, vers Aldébaran, nous avons bu 1000 lampées. Les soldats errants, les hommes en rang, dans l'espace vont porter l'épée. Dans l'espace vont porter l'épée. Et toi le garde à vous. Le monde est en flamme, le fer est partout. Le monde est en flamme, le fer est partout. mille années-lumière entre deux combats et 100 millions de mercenaires qui chantent tout haut, qui meurent tout bas, pieds au ciel et face contre terre, pieds au ciel et face contre terre. Et toi le garde à vous, Notre-Dame Vierge, sauvegardez-nous, Notre-Dame Vierge, sauvegardez-nous.